bienvenue. Je suis Aurélie. J'ai longtemps été écrasée au sol par ma charge mentale comme 8 femmes sur 10. Puis, j'ai vécu une révolution. Si toi aussi, tu es super impliquée sur tous les fronts, tu poursuis des objectifs de succès ambitieux, tu te questionnes sur ta carrière, mais tu ne sais pas où trouver les réponses, alors tu es au bon endroit. Je te propose toutes les semaines des clés pour reprendre les rênes. Parfois seule, parfois accompagnée, je répondrai à toutes tes questions qui parlent de carrière, d'état d'esprit et d'équilibre. Si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement et on passe à la question du jour. Hello, on termine la série sur la facilitation avec Sonia. Dans l'épisode d'hier, on a appris à chauffer la salle et à prendre la température. On continue aujourd'hui avec la troisième et dernière partie, les clés de Sonia pour passer à l'action. Bonne écoute. On se retrouve pour ce troisième épisode sur la partie conseils concrets, Sonia. Donc, comment je procède si demain, j'ai envie de changer ma manière d'animer et d'incarner cette posture de facilitatrice? Comment je fais avant un atelier, pendant et après?
Alors déjà, je me prépare. Ça, c'est vraiment l'étape numéro un et c'est fondamental. Hein. Je disais, la préparation, c'est 80% du succès. Donc, je me prépare lors d'un cadrage. Donc, le cadrage, c'est quoi? C'est comprendre pourquoi cet atelier, on va le lancer, qu'est-ce qu'on va y faire, donc, quel sera le déroulé, quels seront les outils qu'on va utiliser. Si, par exemple, j'ai pour objectif de faire brainstormer l'équipe, quel outil d'idéation je vais utiliser. Si mon objectif, c'est plutôt de faire une rétrospective d'équipe, bah, pareil, quels outils je vais utiliser pour permettre à l'équipe de prendre du recul sur ce qui s'est passé ces derniers mois, par exemple. Si j'ai un enjeu plus de bien communiquer en équipe, quel type d'outil je vais utiliser. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup le disque, la roue des couleurs, les personnalités. Ça marche bien quand on veut travailler sur la communication. Donc, tu vois, en amont, il y a vraiment cette phase de « je comprends le besoin, le pourquoi » et j'anticipe du coup un déroulé d'atelier qui va répondre à l'objectif. Ça, c'est le avant. Et donc, ça se travaille avec un commanditaire. Donc moi, par exemple, étant plutôt externe quand je travaille avec des clients, je vais évidemment co-construire la préparation de l'atelier avec le commanditaire. Ça, c'est le avant. Le pendant, c'est le moment finalement où tout se passe, où tout se joue. Là, je dirais qu'il y a un enjeu de... Déjà, d'alignement aussi dans sa posture, d'être présent à soi, d'être confiant. Donc, je pense qu'il y a, quand on est facilitateur, on doit aussi énormément travailler sur cette dimension-là. Sa présence, le fait d'être ancré, le fait de sentir l'énergie du groupe, de gérer les interactions. Il y a beaucoup de choses, en fait, hein, gérer le timing. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est un exercice, comme tout sport. À force de pratique, on arrive à tout faire en même temps. Mais au début, c'est vrai qu'il faut un petit peu prendre la main. Et ta dernière question, Aurélie, c'était le après, c'est ça?
Ouais, qu'est-ce exactement. Qu'on fait Parce que quand il est fini, il n'est pas fini, en fait.
Quand il est fini, il n'est pas fini, parce que quand il est fini, c'est le début de la suite. Donc, c'est le début de la suite. Moi, je travaille systématiquement en faisant des restitutions après mes ateliers. Et puis, l'idée, c'est aussi de co-construire la suite avec son client. Mais la suite, en réalité, tu l'anticipes déjà avant l'atelier. Et ça, c'est super important d'expliquer à tes participants, enfin de proposer en tout cas à tes participants une suite. Ne serait-ce que, parce que en fait, le temps qu'on va passer ensemble ici, il est utile pour la suite. Et la suite, voilà comment on l'aperçoit, voilà comment on l'envisage.
Ouais, je trouve ça intéressant parce que souvent, on a l'impression, même si on a vécu une bonne expérience d'atelier, surtout avec cette optique-là, tu donnes beaucoup de toi, tu travailles, tu co-construis, et à la fin, ça s'arrête, boum boum, fermeture des portes, et là, tu te dis, mais à quoi ça a servi en fait tout ce qu'on a fait ? Et donc, je pense que on oublie très souvent dès le début de se dire finalement, c'est quoi le livrable ? Qu'est-ce que j'attends à l'issue de ce temps collectif ?
Totalement. Et en fait, quand est-ce qu'on se revoit la prochaine fois? Donc moi, j'ai pour habitude, lorsque je travaille avec mes clients, de caler directement en fait les prochaines sessions pour faire un suivi. Parce que encore une fois, comme tu le dis, ça peut pas être juste le moment waouh où finalement c'est des petites bulles de champagne, quoi. Mais derrière, ça ne doit pas retomber comme un soufflé. Et pour ça, il faut l'envisager dès le départ.
Ok, ok. Tu as parlé au milieu de confiance, d'ancrage dans le quotidien, de gestion des énergies, de la gestion du timing. Du coup, ça me pose une question sur cette fameuse posture de facilitateur et peut-être les qualités, les soft skills dont il faut avoir conscience et qu'il faut expérimenter sur cette phase 2 pendant l'animation d'un atelier collaboratif.
Déjà, je voudrais dire une chose par rapport à ça qui me paraît super primordiale, c'est qu'à chacun son style. Tu vois, moi, je trouve qu'il n'y a pas de portrait robot d'un bon facilitateur. Je trouve qu'il faut trouver son style. Moi, je sais que j'ai un style qui est plutôt dynamique et assez confrontant, assez cash. Là où je connais d'autres facilitateurs qui sont extrêmement brillants, qui ont un style plutôt dans la douceur, un peu plus, peut-être un peu moins confrontant, un peu plus dans la rondeur. Et je trouve que ce qui est important quand on se lance dans cette carrière, c'est de comprendre qui on est et quel est le style qu'on va transmettre. Et une fois que tu es aligné avec ça, c'est là que tu es impactant. Donc, je n'ai pas de portrait robot. Après, il y a quelques compétences clairement qui sont communes à tous. Voilà, il faut quand même avoir une capacité de prise de parole en public parce que quand tu es face à parfois 50, 100 personnes, il faut être plutôt à l'aise. Maintenant, ça se travaille, hein, évidemment, la prise de parole, on le sait. Il faut aimer les gens aussi, c'est tout bête, mais je le dis. Enfin, tu vois, il faut avoir envie d'aider les gens, il faut avoir envie d'être là et de faire le lien aussi parce qu'on a un vrai rôle de lien, de créer de la cohésion. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, ouais.
Quand on en a parlé dans le premier épisode, c'est aussi de sortir de cette idée de « on doit donner la solution ». Ce n'est pas ça du tout, en fait, la facilitation.
Absolument pas. On n'est pas là pour donner les solutions. Après, ce n'est pas incompatible avec une posture de consultant. Moi, je forme pas mal de consultants qui viennent justement parce qu'ils veulent changer un petit peu leur façon de faire, leur pratique. Souvent, les clients viennent en demandant « voilà, on a un problème, on veut une solution ». Rapportez-nous la solution sur un plateau en or, sauf qu'en fait, ce n'est pas forcément la bonne façon de faire. Si tu donnes la réponse à ton client, c'est beaucoup moins puissant que si tu co-construis avec lui. Et donc, ça demande un petit changement de posture et peut-être plus dans le participatif et moins dans le « je te donne la réponse », tu vois. Donc, ce n'est pas incompatible avec une posture de consultant et pas non plus incompatible avec une posture de formateur qui transmet du contenu. Moi, mon approche de facilitation, elle est beaucoup entre tout ça. C'est-à-dire que quand j'anime, je vais avoir des phases où je fais de la transmission, où je forme par exemple aux soft skills, la communication, la capacité à faire du feedback. D'autres moments où je vais plus solliciter le groupe pour co-construire. Donc tu vois, j'alterne en fait entre différentes casquettes et je trouve que c'est ça qui fait la force d'un facilitateur, c'est d'être capable de jongler avec ces différentes postures.
Ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, tout n'est pas cuit d'avance. C'est-à-dire que du moment où on a envie de changer, où on a envie d'adopter une nouvelle posture, ben, on peut se former, en fait. On peut évoluer, on peut grandir, on peut développer les soft skills clés dont tu as parlé, tout en trouvant sa patte et en restant aligné à ses valeurs pour ne pas occuper l'imaginaire de la facilitatrice qui est X ou qui est Y, parce que forcément, on ne sera pas épanoui, parce qu'on ne sera pas aligné.
Mais exactement. Moi, au départ, je facilitais beaucoup avec des personnes très charismatiques. J'en sais rien, une personne qui était hyper grand, il parlait fort, etc. Et moi, je me disais, mais oh, je pourrais jamais faire ça. Déjà, j'ai pas sa corpulence, j'ai pas son coffre, tu vois. Je me disais, est-ce que vraiment je pourrais faire une bonne facilitatrice? Et en fait, bien sûr que ça n'a rien à voir avec ça. C'est, encore une fois, c'est l'alignement, c'est être soi-même. Je pense qu'il y a aussi une question d'authenticité. Je trouve que quand on veut jouer un rôle ou qu'on est dans un personnage, c'est pas forcément la bonne approche, je pense, pour donner le meilleur de soi en tant que facilitateur.
Cool, ben merci beaucoup, ça nous donne plein d'espoir pour celles qui ont envie d'avancer sur un volet de facilitation beaucoup plus fin. Chez Magnana, du coup, qui sont vos clients? C'est des PME, des TPE, des grands groupes?
Alors, un petit peu tout ça. En fait, on travaille vraiment avec différents types de publics, ce soit effectivement des petites entreprises, plutôt PME, des grands groupes aussi. Donc là-dessus, on est assez varié sur le type de public. On travaille vraiment essentiellement sur des sujets liés à la cohésion d'équipe, à la communication en équipe, à la capacité à faire du feedback. Donc c'est vraiment nos sujets de prédilection. Et en parallèle, on a aussi des clients qui sont plus entrepreneurs, formateurs, consultants, solopreneurs, qui viennent se former puisqu'on a une formation dédiée à la facilitation, donc pour monter en compétences sur les techniques d'animation de groupe. Et donc là, on va former des personnes qui, comme nous, souhaitent intervenir auprès d'entreprises pour animer des groupes.
Cool, ben merci beaucoup. Je vais finir par la question signature de PostBoost qui est, c'est quoi pour toi une PostBoost, Sonia ?
Une PostBoost, pour moi, c'est un moment dans lequel on va refaire circuler l'énergie à l'intérieur de notre corps. Moi, je sais que lorsque j'anime beaucoup, parfois ça m'arrive d'animer 3-4 ateliers par semaine, j'essaye de limiter, mais voilà. Parfois, ça peut être intense et j'ai besoin de sentir l'énergie qui circule dans mon corps. Et pour ça, je fais des bains sonores. Et notamment, j'ai un centre pas trop loin de chez moi à Paris. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres en France. Mais en tout cas, le bain sonore, ça m'aide énormément à me reconnecter à moi-même et à me réénergiser.
Cool. Ben, je mettrai le lien pour les Parisiennes dans les notes de l'épisode. Et on va tester le bain sonore. Écoute, je ne connaissais pas, mais ça me donne envie.
Une forme de méditation. Si tu testes, tu verras, il y a vraiment un côté très... reconnexion à soi, méditation, calme intérieur qui est ultra, ultra fort.
Ok, cool. Alors, quelles sont tes prochaines actualités et celles de Magnana, Sonia ?
Eh bien, justement, c'est ce dont je parlais juste avant, la formation à la facilitation donc pour développer compétences d'animation de groupe à destination d'infopreneurs, de formateurs, consultants qui veulent vraiment... soit démarrer dans cette voie-là, soit certains sont déjà en activité et veulent monter en puissance, auquel cas on les accueille bien entendu dans notre programme qui dure 4 semaines et on réouvre les portes au mois d'avril prochain. Voilà, les places sont assez limitées parce qu'on a des petits groupes de 12 pour favoriser l'interaction et on fait beaucoup pratiquer, on fait expérimenter l'intelligence collective. Donc voilà, en avril prochain.
Ben merci Sonia, je mettrai toutes ces infos dans les notes de cet épisode. Et si on veut te suivre, où tu es et comment on te suit ?
Alors je suis assez présente sur LinkedIn, donc avec plaisir pour se retrouver de l'autre côté sur LinkedIn. Et j'ai également une newsletter hebdomadaire que j'envoie, dans laquelle je partage des techniques d'animation, des méthodes, des outils. Voilà, donc c'est toutes les semaines et voilà.
Eh bien, cool. Donc, je mettrai toutes ces infos dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup, Sonia, d'avoir inauguré PostBoost en 2023. Et puis, à toutes celles qui ont envie d'aller vers la facilitation, je vous invite aussi à vous connecter avec Sonia et à suivre les différentes actualités qui vont être les siennes et celles de Magnana, et dont des petits ateliers masterclass de découverte de la facilitation. Donc, je vous invite vraiment à y participer parce que c'est là qu'on voit vraiment à la fois la puissance de la facilitation, les méthodes et les outils dont on a pu parler, et surtout, on accroche avec la personnalité ultra inspirante de Sonia. Merci beaucoup, Sonia.
Merci, Aurélie.